Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Pour marcher avec Dieu, nous avons besoin de sagesse. Mais où la trouver?
Pour en savoir plus, écoutez tout de suite notre série sur les proverbes. Ian, lors des dernières émissions, vous avez comparé la vie à une place de marché, me semble-t-il.
Oui, c'est l'image que nous voyons dans les premiers chapitres du livre des Proverbes. Vous avez tous sans doute fait l'expérience de flâner sur une place de marché et d'entendre les marchands crier afin de vanter leurs produits. La place est bruyante et l'on peut être tiraillé entre ses vendeurs, tenté d'acheter des choses que l'on n'avait pas l'intention de prendre.
Oui, j'ai fait cette expérience de nombreuses fois. Il n'est pas facile de résister et de n'acheter que ce que nous avions décidé de chercher quand nous nous sentons harcelés de tous côtés par des commerçants très entreprenants. Mais pourquoi le livre des Proverbes se sert-il de cette image? Rappelez-nous la leçon qui s'en dégage.
Oui, dans la vie, beaucoup de personnes chercheront à nous influencer. On exerce souvent sur nous une pression énorme, tout comme ces vendeurs, afin que nous suivions leur voie ou adoptions leurs idées. Le livre des Proverbes nous présente plusieurs de ces marchands qui cherchent à attirer notre attention, et nous les avons passés en revue durant ces dernières émissions. Il y avait la femme adultère, l'insensé, le paresseux, le moqueur, représentant chacun une voie folle et dangereuse. Et puis, il y avait la sagesse, que ce livre des Proverbes nous supplie d'écouter et de suivre si nous voulons réussir nos vies. Bien sûr, selon les Proverbes, il y a un seul marchand qui vend un produit sain, le seul que nous devions fréquenter, malgré toutes les paroles mielleuses des autres. C'est la sagesse. C'est-à-dire la sagesse qui vient de Dieu et que nous pouvons découvrir dans sa parole, la Bible.
Voilà un bel aperçu de ce que nous avons parcouru ensemble et aujourd'hui, nous abordons la dernière de nos discussions sur le livre des Proverbes. Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet?
Nous avons noté que le livre des Proverbes personnifie la sagesse. S'agit-il là d'une façon de parler? Ou bien la sagesse est-elle réellement une personne? Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprend cette idée pour dire qu'effectivement la sagesse de Dieu est une personne. Elle est le Seigneur Jésus-Christ.
Pouvez-vous citer un verset où l'on dit de Jésus qu'il est la sagesse de Dieu?
Oui, bien sûr. Il s'agit de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Le Christ a été fait pour nous sagesse de Dieu. Par lui, Dieu nous justifie, il nous met à part et nous libère du péché.
Et quel est le contexte de cet enseignement de l'apôtre Paul?
Paul a écrit ces paroles à une église de la Grèce antique et nous savons que les Grecs aimaient beaucoup la philosophie. Le mot « philosophie » veut dire tout simplement « l'amour de la sagesse ». Les Grecs discutaient donc beaucoup sur les divers courants de pensée qu'ils rencontraient. Alors beaucoup d'idées, de philosophies, se faisaient concurrence, un peu comme sur cette place de marché que nous avons évoquée tout à l'heure. Paul affirme dans ce climat très intellectuel que la véritable sagesse ne vient pas des philosophes humains. Au contraire, Dieu a donné, dévoilé sa sagesse dans la personne de Jésus-Christ, dans son enseignement, mais aussi par les événements de sa mort et de sa résurrection.
Nous pouvons facilement comprendre que Dieu puisse dévoiler sa sagesse à travers l'enseignement d'une personne, que ce soit par les proverbes de Salomon ou bien par l'enseignement de Jésus. Cependant, comment la sagesse de Dieu est-elle démontrée par la mort et la résurrection de Christ?
Les proverbes nous montrent comment réussir notre vie devant Dieu. Ils font l'éloge de qualités telles que le respect envers Dieu et envers les autres, la justice, la droiture et l'honnêteté, la fidélité et la générosité, la pureté et l'assiduité. En vivant ainsi, on reçoit l'approbation de Dieu sa bénédiction et l'espérance de la vie éternelle. Cependant, j'ai une question pour vous, Helen.
Je vous en prie, posez-la.
Combien de personnes dont vos connaissances vivent parfaitement, selon ces idéaux dépeints par les proverbes?
Pour ma part, j'ai manqué à ces idéaux dans bien des domaines. Il est tellement facile de faire plus attention à d'autres voix, à d'autres influences. Et si je n'ai pas gâché ma vie, c'est grâce à l'intervention de Jésus-Christ.
Voilà où je veux en venir. En fait, ni vous ni moi ne sommes à la hauteur. Personne n'arrive à mettre parfaitement en pratique la sagesse de Dieu. On peut comparer les êtres humains aux participants d'un concours de tir à l'arc assez catastrophique, où tout le monde rate la cible. La Bible dit « Il n'y a pas de juste, tous ont péché ». Et le mot traduit ici par « péché » signifie à l'origine « manquer la cible ». La Bible continue en disant qu'à cause de cela, nous sommes tous privés de la présence de Dieu.
Donc les proverbes nous avertissent contre la folie de céder au péché. Mais en fait, malgré ces avertissements, nous faisons tous le mauvais choix. Pour reprendre l'image de la place du marché, tout le monde achète des produits pourris au lieu de se procurer la sagesse de Dieu.
C'est exact. Tout le monde, à une exception près, Jésus-Christ.
Est-ce pour cela que Jésus est appelé notre sagesse?
Oui, Jésus est le seul qui n'ait pas manqué la cible. Il s'est conduit parfaitement selon la sagesse divine, nous montrant ainsi comment être sage. Il est l'exemple même de la sagesse.
Mais revenons à la question de sa mort et de sa résurrection, qui selon la Bible nous montre aussi la sagesse de Dieu. Pouvez-vous nous expliquer comment?
Étant donné que le monde entier sombre dans la folie, c'est-à-dire le rejet de Dieu et la pratique du mal, se privant ainsi de la présence de Dieu et de l'espérance de la vie éternelle. Dieu, dans sa sagesse, a trouvé le moyen de régler ce problème, solution qui nécessitait la mort de Jésus sur la croix.
Et en quoi la mort de Jésus règle-t-elle ce problème?
Jésus, l'innocent, le sage, a pris sur lui-même le châtiment qui devait tomber sur nous tous qui avions pratiqué la folie du péché. Ainsi, Dieu peut nous pardonner. Il peut nous accueillir dans une nouvelle relation avec lui. C'est ainsi que, dans sa sagesse, il a résolu un problème apparemment insoluble. Pour cette raison, nous disons que Jésus est devenu notre sagesse.
Nous arrivons à la fin de cette série avec une conclusion étonnante et je voudrais vous demander en quoi consiste aujourd'hui la sagesse et quelle est actuellement la place du livre des Proverbes.
La leçon essentielle du livre des Proverbes est celle-ci. Pour réussir sa vie devant Dieu, il faut le respecter, l'écouter, prendre au sérieux sa sagesse, sa parole. Tout cela est vrai aujourd'hui. Cette sagesse consiste à accueillir Jésus et la bonne nouvelle, c'est-à-dire croire qu'en lui et par sa mort sur la croix, nous pouvons entrer de nouveau dans la bénédiction et l'espérance offerte par Dieu. Ensuite, une fois que nous avons ainsi retrouvé notre relation avec Dieu, les proverbes nous aident à voir, souvent d'une façon très pratique, comment mener nos vies de manière à honorer Dieu et à respecter sa volonté pour nous, ses créatures. Au pied de la croix, la foule se moquait de Jésus. Mais un des malfaiteurs crucifiés a osé croire qu'il était la sagesse et le sauveur venu de Dieu. Alain va conclure ses méditations sur cet événement relaté dans l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43.
L'un des deux criminels attaché à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine? Pour nous, ce n'est que justice, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. »
La grâce de Dieu est une notion que nous rencontrons souvent dans la Bible. Mais que signifie la grâce ? La grâce, c'est l'amour désintéressé, donné à celui ou à celle qui ne le mérite pas. Et le récit, lu aujourd'hui, nous donne une belle illustration de ce qu'est la grâce de Dieu. Jésus dit à un des malfaiteurs en réponse à sa prière, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais qu'a donc fait cet homme pour mériter d'aller au paradis ? Absolument rien. Et qu'aurait-il pu offrir pour mériter d'y aller ? Rien non plus. Notons que ce malfaiteur pendu sur la croix n'a plus rien à offrir à Dieu. Or, lorsque nous recevons la grâce de Dieu, nous éprouvons le désir de vouloir nous donner à lui en retour. Nous souhaitons lui exprimer notre amour et notre reconnaissance par une vie juste et sainte en le servant de diverses manières. Toutefois, Dieu ne nous accorde pas sa grâce en vue de ce que nous pouvons lui donner en retour. Ce malfaiteur n'a plus rien à lui offrir, et pourtant la promesse de la grâce de Dieu s'adresse aussi à lui. Il n'en est pas exclu. Cette conversation peut redonner espoir à ceux qui se trouvent au seuil de la mort et qui se demandent s'il n'est pas trop tard pour venir à Jésus. Tant que nous vivons, il n'est jamais trop tard pour recevoir la grâce de Dieu. Cette vérité ne doit pas toutefois devenir une excuse pour repousser à plus tard toute démarche de foi, car nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais que change la grâce de Dieu ? La dernière fois, nous avons vu que par grâce, Dieu pardonne nos fautes passées, il pardonne les fautes qui nous empêchaient de marcher en communion avec lui. Par grâce, Dieu permet aussi aux croyants de marcher en nouveauté de vie dans la présence du Seigneur. La grâce de Dieu transforme ainsi notre avenir. Elle y fait naître l'espérance. Le malfaiteur se trouve dans une situation désespérée, il n'a plus d'avenir. Car après le châtiment des hommes, celui de Dieu l'attend. Mais Jésus, dans sa grâce, lui offre un avenir plein d'espérance. Il lui déclare « Vraiment, je te l'assure aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Le mot « paradis » évoque les conditions idéales de vie dont jouissaient Adam et Ève avant d'être expulsés du jardin d'Éden. Dans le paradis, nous bénéficierons d'une existence merveilleuse, inimaginable aujourd'hui. Car tout ce qui maintenant est cause de souffrance, tout ce qui est pénible et douloureux aura disparu dans le paradis. Et le croyant vivra avec Jésus. Il le verra face à face. Il jouira de son amour éternellement. Aujourd'hui, vos perspectives d'avenir peuvent être dépourvues d'espoir, soit parce que vous êtes au seuil de la mort, soit parce que vous subissez des pressions insupportables. Laissez alors la grâce de Dieu vous transformer et acceptez, par la foi, sa promesse de la vie éternelle, véritable espérance dans ce monde malheureux.
La semaine prochaine, nous écouterons comment le Seigneur a transformé la vie d'une jeune femme marquée par la violence et le suicide de son père. Elle témoignera de tout ce que Dieu a accompli dans sa vie.
En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.